Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Radio Campus 88.3, nos fidèles auditeurs auditrices le connaissent bien, Jean-Pierre Polacq, Pose Poésie, vient de sortir un roman chez L'Harmattan intitulé « La visite du musée ». Nous allons donc échanger un peu avec Jean-Pierre autour de ce nouveau roman. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors, tu n'en es pas à ton premier roman ?
Non, mais auparavant j'étais édité par les éditions du Cygne. Et j'ai publié aux éditions du Cygne 6 romans, plus un essai. Voilà. Donc c'est le premier roman que je publie à L'Harmattan, qui a accepté le manuscrit. Donc je considère que c'est une petite progression personnelle, même si j'ai tout le respect qu'il faut pour les éditions du Cygne, que je connais très bien. C'est quand même eux qui m'ont mis pour la première fois mon nom sur une couverture.
Et ça remonte à quand cette première fois ?
La première fois, le premier roman aux éditions du Cygne date de 2009.
Alors, je vais lire la quatrième de couverture. Peut-on croire en l'amour au-delà de la soixantaine ? Lui, on n'en saura pas plus sur son nom, y croit toujours. Il prend le train d'Orléans vers Paris avec l'espoir d'un rendez-vous décisif avec celle qu'il pense être l'ultime femme de sa vie, une artiste japonaise, peintre et calligraphe. Il empoche 2 billets pour voir avec elle l'exposition Soulages au Louvre. Durant le trajet, sa mémoire divague au gré de ses amours anciennes, sa première aventure, son ancienne jeune maîtresse africaine. Ce sont finalement les couloirs de son passé qui s'exposent et qu'il visite, presque malgré lui. Ne s'est-il pas trompé de voyage ? A-t-il fait le bon choix ? Pourquoi ce roman ?
Alors, pourquoi ce roman ? Je pense qu'il faut commencer d'abord par une page de garde qui est importante, dans laquelle je dis « Ce modeste récit est un hommage à la modification, chef-d'œuvre de Michel Butor » qui a bouleversé mes années universitaires. Effectivement, quand à l'université, dans les années 70, on m'a demandé de lire la modification de Michel Butor, j'ai été complètement bouleversé parce que ce roman m'a pris et ne m'a plus lâché. Pourquoi ? Parce que ce roman évoque le temps, fractionne le temps à travers un voyage en train. C'est dans les années 50, c'est un voyageur de commerce qui va de Paris à Rome. Maintenant, il prendrait l'avion, évidemment. Mais ce voyage en train lui permet de réfléchir sur sa vie, sur son passé, et de remettre en cause, finalement, le projet initial qu'il avait. Donc, je me suis dit que, dans le fond, les incertitudes de la vie peuvent aussi se comprendre dans un trajet plus court. Alors j'ai pris un trajet que je connais très bien, le trajet Orléans-Paris, et je me suis amusé à faire ma petite, entre guillemets, modification en réfléchissant à un personnage qui partirait avec un projet et qui, durant ce trajet, eh bien, renoncerait à ce projet. Ce projet est un projet amoureux. Il renonce à ce trajet parce qu'il pense un petit peu à sa vie. Et c'était un peu l'occasion, dans ce roman, d'écrire à la fois la mémoire et le fantasme. Et de se rendre compte que finalement, de se rendre compte que et la mémoire et le fantasme sont peut-être 2 mensonges dont il faudrait se séparer pour avancer. Voilà, c'est un peu le thème philosophique, entre guillemets encore, du roman. C'est une réflexion sur le sens de la mémoire et sur l'illusion du fantasme.
Peut-on vraiment s'en séparer ? Peut-on s'en séparer ? Tu disais, on devrait se séparer justement de la mémoire et du fantasme. Est-ce que c'est possible ?
Ben voilà, c'est toute la problématique de mon personnage et évidemment derrière ce personnage l'auteur, parce que la mémoire est un thème récurrent dans tout ce que je peux écrire, notamment en poésie. Tous les poètes que j'apprécie sont des poètes de la mémoire, du temps passé. En fait, la mémoire, le temps qui passe, c'est une obsession. Et je sens que plus je m'avance dans la vie, plus ce sera ainsi. Donc, peut-on s'en sortir ? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai cru bon de mettre en route, en ligne, ce personnage qui est confronté à cela. Quand on écrit quelque chose, c'est souvent pour s'en débarrasser, pour tenter de s'en débarrasser. Donc cette obsession de la mémoire est quelque chose qui est profondément en moi et que je fais vivre dans mon personnage.
Tu parlais de l'illusion, du mensonge. Il y a de beaux mensonges ?
Oui, il y a de beaux mensonges, mais... l'amour est peut-être un beau mensonge, mais oui, c'est vrai. Mais voilà, je pense que quelque part, mon personnage est avide de vrai, de sincérité, et c'est ce qu'il cherche à travers cette femme idéale, ce mythe de la femme idéale, qui rejoint la mythologie des poètes courtois et de tous les poètes romantiques. Mais quelque part, c'est aussi un désir de sincérité. Et je pense qu'il a du mal à le trouver, et à la fin du roman, je pense que son problème n'est pas complètement résolu.
Et pourquoi avoir choisi la forme romanesque pour exprimer justement de toutes ces errances de la mémoire ? Enfin, on te sait amateur de poésie, amateur un peu plus que ça même d'ailleurs, passionné de poésie. Pourquoi choisir ?
Oui, c'est-à-dire que, étant donné que j'ai déjà publié 4 recueils de poésie aux éditions Les Poètes Français, de la Société des Poètes Français dont je fais partie. J'adore écrire ça en poésie, et les fantasmes, mes problèmes personnels sortent très bien en poésie, mais c'est aussi intéressant de les mettre en scène à travers des personnages fictifs. Je tiens à dire tout de suite que ce roman n'est pas autobiographique, même s'il me ressemble, il n'est pas autobiographique. Ça, c'est un point que je tiens absolument à préciser. Mais mettre les problèmes que l'on évoque dans des vers et les transposer à travers des personnages de fiction, c'est aussi une façon de prendre du recul avec eux, de les mettre à distance, puisqu'on les voit vivre dans d'autres personnages qui peuvent me ressembler, mais qui ne sont pas moi. Donc il y a une distanciation peut-être plus forte qu'en poésie, où en poésie, c'est le « je » qui écrit. Là, mon personnage, c'est « il ». On ne sait pas son nom, qu'importe. C'est pas un problème, mais c'est « il ». C'est bien, il y a bien là cette distanciation avec lui. Et par le roman, c'est une façon de prendre de la distance et donc de regarder de plus loin, de changer de point de vue sur les problématiques qui me poursuivent et m'obsèdent.
Alors, tu l'as dit, hein, il ne s'agit pas d'un roman autobiographique. À qui tu pensais quand tu as écrit ce livre ? Est-ce que, enfin, je te demande pas, as-tu pensé à quelqu'un, à une ou plusieurs personnes en écrivant ce livre ?
Bon, alors, déjà, dans ma façon d'écrire mes romans, que ce soit les romans publiés au Signe ou celui-là, ma méthode est toujours la même. Je manque d'imagination. Je ne suis pas Monsieur Musso. Je manque d'imagination. Et j'ai besoin de m'accrocher à des parcelles de vie. Les parcelles de vie, je les prends dans ce que j'ai vécu. Il se trouve que j'ai vécu longtemps en Afrique, donc j'ai eu la chance de vivre dans un contexte différent du contexte habituel que les gens vivent. Donc j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai été véritablement mis en question. Donc j'ai voulu retranscrire cela, mais non pas les décrire tels que je les ai vécus, mais les prendre, les malaxer, les pétrir, les refaire, les réécrire pour en faire quelque chose qui, bien sûr, ressemble à l'initiale, mais est différent. Donc c'est un peu ma façon d'écrire, c'est de partir de mon expérience de la vie. Donc mon personnage dans le train, il me ressemble bien évidemment, mais ce n'est pas moi, parce que ce n'est pas exactement ce que j'ai vécu. C'est transformé, malaxé, arrangé, peut-être pour donner plus de sens, pour donner une portée peut-être plus symbolique des personnages.
Oui, et je te demandais, est-ce que tu avais pensé à des personnes en écrivant ce livre ?
Oh, oui, les personnes à qui j'ai pensé, c'est les personnes que j'ai connues, mais je les ai tellement travesties qu'elles ne peuvent pas se reconnaître.
Mmh. Mais donc, tu y as pensé, parce que tu fais référence donc dans la présentation de ce livre à donc les anciennes, la première aventure du personnage principal, son ancienne jeune maîtresse. Est-ce que tu as puisé dans ton passé pour repétrir
ces
réalités
de façon indéniable. Mais cela a été transformé. J'ai voulu que mes personnages féminins soient un peu symboliques. Quels sont les trois personnages féminins majeurs ? Il y a le fantasme, c'est-à-dire la femme d'Asie, la femme japonaise, qui est le rêve d'amour idéal. Et puis, dans deux souvenirs, il y a deux femmes, une femme française, lyonnaise, et une femme africaine. Donc, en somme, se trouvent réunies trois cultures, trois femmes, et j'ai trouvé cela intéressant de les mettre en rapport, finalement, en résonance. Elles ne se sont jamais connues, ne se sont pas fréquentées, mais le point commun, c'est le personnage principal, et de montrer qu'à travers les différences culturelles qui existent, on a, en fait, une éternité humaine qui est la même, et que l'on a trois femmes qui aspirent à l'indépendance, l'autonomie, qui ne veulent en aucun cas être à la traîne derrière quelqu'un, et qui ont une vie qui est tout à fait revendiquée en tant que telle. Voilà. Beaucoup de mes amis, quand ils ont, et mes amis au féminin, quand ils ont lu ce roman, disent « Ouais, bon, c'est le vieux type dragueur qui fait le compte de ses femmes. » Non, non, c'est complètement faux. Ce vieux type n'est surtout pas un dragueur, d'ailleurs il sait pas faire, mais c'est quelqu'un qui constate que la femme est justement cette femme d'autonomie, d'indépendance, et je pense que quelque part si le personnage a l'âge d'être un boomer, c'est un peu un roman de l'après Me Too, qui est au contraire, paradoxalement, je trouve, assez féministe, parce que les personnages qui finalement ont la sympathie du lecteur dans ce roman, ce sont les personnages féminins et pas ce personnage un peu triste et grincheux qui fait le fil conducteur.
Quand l'as-tu écrit ce livre ?
Je pense que le confinement y est pour beaucoup. Pendant le confinement, j'ai beaucoup écrit et je suis parti. Je l'ai fini après. Je l'ai fini après, je l'ai travaillé après. Mais je ne me plains pas du tout du confinement, parce que ça a été une période très riche en création poétique et littéraire.
Alors, je pense que c'est voulu, hein, mais le titre donc a plusieurs lectures. La visite du musée, donc ce musée auquel le personnage principal se rend, et puis le musée de sa mémoire, bien évidemment.
Voilà, c'est un. J'aime bien quand le titre est polysémique, effectivement. Mmh. Alors, il est paradoxal, parce que la visite du musée, en fait, le projet, c'est d'aller visiter le musée, et il ne va pas y aller. Donc, cette visite du musée, elle n'existe pas, elle est fantasmée. Mais le musée qu'il visite, c'est le musée de sa mémoire. Vous voyez, il y a toujours ce jeu fantasme-mémoire. Et dans le fond, le titre représente un peu cela. Il est parti pour visiter un musée, mais en fait, le musée qu'il visite, c'est lui-même. Et à la fin du roman, il en dégage quelques conclusions sur sa vie personnelle et sur son avenir.
Alors, il y a une question qui est un peu bizarre tout à l'heure quand je l'ai lu, qui est donc sur la page de présentation du livre. Hein, peut-on croire en l'amour au-delà de la soixantaine ? Est-ce que la question mérite d'être posée ?
Oui, absolument, parce que si l'on regarde tous les grands romans de la littérature, les héros, les amoureux, ce sont des jeunes gens. Comme si l'amour était réservé aux jeunes gens, aux Julien Sorel, aux Rastignac, et j'en passe. Mais voilà, c'était une façon de dire, oui, bon, l'amour, c'est ça dure plus longtemps qu'on ne pense, c'est bien différent de ce que l'on pense, et ça touche tout le monde, voilà. Alors quand j'avais 20 ans, je me disais, ouais, l'amour à 40 ans, c'est fini. Quand on voilà, et puis on avance dans le temps et on se rend compte que non, l'amour, c'est-à-dire le désir de la rencontre avec autrui, de la communion avec autrui, c'est une préoccupation humaine qui ne cesse jamais.
Et au même titre que la mémoire, hein, qui ne fait que s'enrichir de jour en jour, cette mémoire qui a souvent été développée chez de nombreux poètes dans des styles nostalgiques, mélancoliques, du spleen baudelairien, hein, presque, cette la douce douleur du souvenir aussi. Est-ce qu'il y a une approche poétique, justement, dans ton écriture, même si elle n'est pas en vers, en rime, est-ce qu'il y a quand même une approche poétique dans l'écriture du roman?
Bon, certains m'ont dit qu'il y a des passages très poétiques. Bon, je ne peux pas m'empêcher, quand j'écris, d'utiliser toutes les techniques poétiques, à savoir l'image, la métaphore, le rythme, le souffle. Mais bon, je veux rester, si je fais de la prose, je veux qu'elle soit prose. C'est assez bêtos ce que je viens de dire, mais c'est la vérité. Sinon, eh bien, je fais de la poésie. Alors, ce que tu disais sur la mémoire, évidemment, je suis ce que l'on appelle un apollinérien. Je fais partie de l'Association internationale des amis de Guillaume Apollinaire. Et s'il y a un poète de la mémoire et du temps qui passe, c'est bien Guillaume Apollinaire. Donc voilà, oui, il y a certains thèmes qui sont très apollinériens, oui, bien sûr.
Et puis il y a quand même ce mystère qui flottera toujours, hein, dont tu te que tu écartes en disant que ce livre n'est pas autobiographique. On ne peut pas s'empêcher, quand on te connaît un peu, de penser quand même qu'il y a une part d'autobiographie. Comment est-ce que tu as réussi à garder cette distance pour qu'on ne dise pas, mais Jean-Pierre, je me sens directement concerné, pourquoi tu parles de nous comme ça?
Alors, je vais répondre de deux façons, en m'abritant derrière des grands et des très grands. Il me semble que l'écrivaine qui vient de recevoir le prix Nobel de littérature et quelqu'un qui n'a écrit que des autobiographies. Donc, en voici une. Bon, mais je ne vais pas m'abriter derrière Annie Ernaux. En revanche, le problème de l'autobiographie est réglé, complètement dégoupillé par la phrase célèbre de Flaubert, « Madame Bovary, c'est moi ». Donc voilà, oui, bon, évidemment, les gens qui me connaissent, moi je sais, j'ai des amis qui m'ont dit « oui, mais attends, je te reconnais ». Bien sûr qu'on se reconnaît, mais on peut reconnaître Flaubert dans Madame Bovary. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, on va retrouver des moments de mon existence, parce que bon, mon personnage, il prend le train entre Orléans et Paris. Ben ouais, je prends très souvent le train entre Orléans et Paris, je suis pas le seul, hein, y a du monde, hein. J'ai travaillé en Afrique dans les pays dont je parle. Bah oui, mais j'ai été pas seul à travailler en Afrique. Et ainsi de suite. Donc, à travers ce personnage qui me ressemble mais qui n'est pas moi, j'espère aussi capter l'attention de gens, d'autres personnes qui peuvent se reconnaître. Et puis, je pensais à Victor Hugo dans la préface des Contemplations. Quand il dit quelque chose comme ça, je le cite mal, pauvre de vous qui pensez que je n'écris que pour moi, mais lorsque j'écris pour moi, j'écris pour vous. Voilà, c'est aussi un peu cela. Voilà, je me suis bien abrité là, hein, j'ai amené du monde. Hein.
Bon. Et puis, est-ce que tu peux nous parler justement de cette rencontre avec l'Harmattan? Comment est-ce que ce travail d'édition s'est mis en place avant d'être finalisé pour la sortie de ce livre en 2022, hein, c'est bien ça?
Oui, il est tout récent, il vient de sortir. Donc oui, l'Harmattan. Alors bon, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de mettre son nom sur une couverture. Et je rends grâce aux éditions du Cygne, parce que grâce aux éditions du Cygne, j'ai eu mon nom sur les couvertures et j'ai publié chez eux 6 romans et un essai. Mais la diffusion se faisait mal ou peu. Donc ça fait un bout de temps que j'essaye d'envoyer mes manuscrits ailleurs. Et puis bon, avec le confinement, les maisons d'édition acceptent plus volontiers maintenant les manuscrits sous forme numérique. Donc c'est plus facile à envoyer plutôt que d'envoyer un gros paquet, avec etc. Donc j'ai envoyé ce manuscrit à l'Harmattan, que je ne connaissais pas, et ils l'ont accepté. Bon, eh ben on travaille ensemble. Alors je reconnais qu'ils sont, ils font plus de choses que les éditions du Cygne. Ils m'ont permis de faire une séance de signature à Paris. Ils ont fait un petit film, une interview comme celle que nous faisons maintenant, qui se trouve sur YouTube. Donc j'ai le sentiment, quel que soit le respect que j'ai pour les éditions du Cygne, j'ai le sentiment d'être monté dans une division supérieure, quoi. Je suis en division 2. Il me reste à attraper la division 1.
Et ce n'est pas terminé. Tu es certainement en train d'écrire quelque chose encore, non ?
Oui, j'en ai plein. J'ai plein de manuscrits qui sont chez moi. Il y a des choses. Et puis, je poursuis un vieux rêve. Alors ça, c'est un rêve qui sera difficile à réaliser, mais il commence à me hanter un peu. C'est d'écrire un roman policier. Or là, écrire un roman policier, quand on dit ça, mon pauvre garçon, des romans policiers, mais regarde tout ce qu'il y a. C'est vrai. Mais bon, j'ai envie de... J'ai une idée dans la tête. Moi, je n'écris rien par avance. Hein. Je laisse ma tête travailler. Et elle fait le tri. C'est-à-dire, s'il y a des idées qui passent et qui s'en vont, je me dis, bon, ben, c'était pas la peine, donc elle a bien fait de partir. Celle-là, ça fait déjà quelques mois qu'elle reste, donc maintenant, ben il faut y aller quoi. Mais il faut se mettre devant l'ordinateur et travailler. Mais la procrastination me tient aussi pas mal.
Merci Jean-Pierre Polac. Hein, donc je rappelle,
merci à toi, ami
auditrice, que La Visite du Musée est un roman de Jean-Pierre Polac, disponible dans toutes les bonnes librairies, bien évidemment, et donc aux éditions L'Harmattan, dans la collection Rue des Écoles Littérature. C'est bien ça ?
C'est ça.
Merci Jean-Pierre.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.